Chapitre 13. Le pacte. À la fin de décembre, Castor Gris entreprit un voyage sur la glace du fleuve Mackenzie, accompagné de Mitsa et de Klukush. Pour lui-même et pour sa femme, il prit la conduite d'un premier traîneau tiré par les gros chiens. Un second traîneau, plus petit, fut confié à Mitsa, et les jeunes chiens y furent attelés. Ce traîneau était un jouet plutôt qu'autre chose, et cependant il faisait les délices de Mitsa, qui commençait ainsi à jouer son rôle dans le monde et en était tout fier. À son tour, il apprenait à conduire les chiens et à les dresser. Le petit traîneau n'était pas d'ailleurs sans avoir son utilité, car il portait près de 200 livres de bagages et de nourriture. Le louveteau avait vu les chiens du camp travailler sous le harnais. Aussi ne fut-il point trop effarouché lorsqu'on l'attela pour la première fois. On lui passa autour du cou un collier rembourré de mousse et que deux lanières reliaient à une courroie qui se croisait sur sa poitrine et sur son dos. À cette courroie était attachée une longue corde qui servait à tirer le traîneau. Six autres chiens composaient d'attelage avec lui. Ils étaient nés au début de l'année et par conséquent âgés de 9 à 10 mois, tandis que le louveteau n'en comptait que 8. Chaque bête était reliée au traîneau par une corde indépendante fixée à un anneau. Il n'y avait pas deux cordes de la même dimension et la différence de longueur de chacune d'elles correspondait au minimum à la longueur du corps d'un chien. Le traîneau était un toboggan en écorce de bouleau, et son avant se relevait, comme fait la pointe d'un sabot, afin de l'empêcher de plonger dans la neige. La charge était répartie également sur toute la surface du véhicule, d'où les chiens rayonnaient en éventail. La différence de longueur des cordes empêchait les chiens de se battre entre eux, car celui qui aurait voulu le faire ne pouvait s'en prendre utilement qu'au chien qui le suivait, et en se retournant vers lui, il s'exposait en même temps au fouet du conducteur qui n'eût point manqué de le cingler en pleine figure. S'il prétendait au contraire attaquer le chien qui le précédait, il tirait vivement le traîneau, et comme le chien poursuivi en faisait autant pour n'être point atteint, tout l'attelage entraîné par l'exemple accélérait son allure. Mitsa était comme son père un homme sage. Il n'avait pas été sans remarquer les persécutions dont Cro-Blanc était victime de la part de Lip-Lip. Mais alors Lip-Lip avait un autre maître, et Mitsa ne pouvait faire plus que de lui lancer quelques pierres. Ayant acquis maintenant Lip-Lip, il commença à assouvir sur lui sa vengeance en l'attachant au bout de la plus longue corde. Lip-Lip en devint du coup le chef de la troupe. C'était en apparence un honneur. En réalité, loin de commander aux autres chiens, il devenait le but de leur persécution et de leur haine. La troupe ne voyait de lui en effet que le large panache de sa queue et ses pattes de derrière qui détalaient sans répit. Spectacle beaucoup moins intimidant que n'était auparavant celui de sa crinière hérissée de ses crocs étincelants. En l'apercevant toujours dans cette posture, les chiens ne manquèrent pas, dans leur raisonnement, de conclure qu'il avait peur d'eux et qu'il les fuyait, ce qui leur donna immédiatement l'envie de lui courir sus. Dès l'instant où le traîneau s'ébranla, tout l'attelage partit aux trousses de Lip-Lip en une chasse effrénée, et qui dura le jour entier. Vexé dans sa dignité offensée et plein de courroux, il avait été tenté d'abord de se retourner vers ses poursuivants. Mais chaque fois qu'il l'essayait, le roi de Caribou, l'homme de 30 pieds qui maniait Mitsa, lui cinglait la figure, le contraignant à reprendre sa place et à repartir au triple galop. Lip-Lip aurait pu faire face à la troupe des chiens, mais il ne pouvait affronter ce fouet terrible qui ne lui laissait d'autre alternative que de garder sa corde tendue et ses flancs à l'abri des dents de ses compagnons. Une ruse encore meilleure vint à l'esprit du jeune Indien. Afin d'activer cette poursuite sans fin du chef de file, Mitsa se mit à favoriser Lip-Lip aux dépens des autres chiens, ce qui aiguisait leur haine et leur jalousie. Il lui donnait de la viande en leur présence et n'en donnait qu'à lui seul. Ils en devenaient fous furieux. Et tandis que Lip-Lip mangeait, protégé par le fouet de Mitsa, il faisait rage autour de lui. Même s'il n'y avait pas de viande, Mitsa tenait les chiens à distance et leur laissait croire qu'il en distribuait à Lip-Lip. Quant à Croc-Blanc, il avait pris tranquillement son travail. La course qu'il avait couverte quand il était revenu de s'abandonner aux dieux était plus grande que celle qu'on lui imposait maintenant, et mieux que les autres jeunes chiens, il avait conscience de l'inutilité de la révolte. Les persécutions qu'il avait supportées de la part des chiens n'avaient fait que le rejeter davantage vers l'homme. Quiche était oublié et sa principale préoccupation était désormais de se rendre favorable aux dieux qu'il avait acceptés pour maître. Aussi, tribait-il dur, se pliant à la discipline qu'on exigeait de lui et toujours prêt à obéir. Bon vouloir et fidélité sont les caractéristiques du loup et du chien sauvage quand ils se sont domestiqués, et le louveteau possédait ces qualités au suprême degré. Sauf pendant le travail, il ne frayait pas avec le reste de l'attelage. Il se souvenait des mauvais traitements anciens quand Lip-Lip alimentait contre lui ses petits compagnons. C'était à cette heure au tour de Lip-Lip de ne plus oser s'aventurer loin de la protection des dieux, et dès qu'il s'écartait de Castor Gris, de Mitsa ou de Cloucouche, tous les chiens lui tombaient dessus. À ce spectacle, Croc-Blanc savourait pleinement sa vengeance. Il n'avait pas davantage pardonné aux autres chiens qu'il prenait plaisir à rosser à toute occasion, appliquant dans son intégralité la loi, opprimer le faible et obéir au fort. Aucun d'eux, même le plus hardi, n'osait plus essayer de lui voler sa viande. Bien au contraire, ils dévoraient tous précipitamment leur propre repas, dans la crainte que le louveteau ne vînt le leur ravir. Et lui, de son côté, mangeait sa part le plus rapidement qu'il pouvait, et malheur alors au chien qui n'avait pas encore terminé. Un grondement et un éclair d'écrou, et ce chien était libre de confier son indignation aux impassibles étoiles, tandis que Croc-Blanc finissait la viande à sa place. Ainsi, le louveteau se fit à lui-même un orgueilleux isolement. Les récalcitrants, s'ils s'en trouvaient, étaient férocement mis au pas. Aussi sévère que celle des dieux était la discipline imposée par Croc-Blanc à ses compagnons, il exigeait d'eux le plus absolu respect, tenant pour crime l'esquisse même d'une résistance. Bref, il était devenu un monstrueux tyran. Et tant que dura le voyage, sa situation parmi les autres chiens, petits ou grands, fut fort enviable. Plusieurs mois s'écoulèrent et Castor Gris continuait son voyage. Les forces du louveteau s'étaient accrues par les longues heures passées à courir sur la neige en tirant le traîneau, et l'éducation de son esprit s'était également parfaite. Il avait entièrement parcouru le cercle du monde au milieu duquel il vivait, et la notion que lui en demeurait était toute matérielle et dénuée d'idéal. Le monde avait achevé de lui apparaître féroce et brutal, un monde où n'existait ni affection ni caresse, un monde sans chaleur pour les cœurs et sans charme pour l'esprit. Il ne ressentait pas d'affection pour Castor Gris. C'était un dieu, il est vrai, mais un dieu sauvage entre tous, qui jamais ne caressait ni ne prononçait une bonne parole. Gros-Blanc, sans doute, était heureux de reconnaître sa suprématie physique, sous l'égide de laquelle il était venu du Wild pour s'abriter. Mais il subsistait en sa nature des profondeurs insondées que Castor Gris avait toujours ignorées. L'Indien administrait la justice avec un gourdin. Il récompensait le mérite, non par une bienveillante caresse, mais simplement en ne frappant pas. Et cette main de l'animal homme qui eût pu lui être si douce ne semblait au Louveteau qu'un organe fait pour distribuer pierres, claques, coups de fouet, de bâton, pinçons et tiraillements douloureux du poil et de la chair. Plus cruel encore que la main des hommes était celle des enfants, lorsqu'ils rencontraient des bandes de ceux-ci dans les campements d'Indiens que croisait la caravane. Une fois même, il avait failli avoir un œil crevé par un flageolant et titubant papouse. Depuis lors, il ne pouvait tolérer les enfants. Dès qu'il les voyait accourir vers lui avec leurs mains de mauvais augure, il se hâtait de s'échapper. Peu après cette aventure, dans un campement voisin du grand lac de l'esclave, il commit sa première infraction à la loi qu'il avait apprise de Castor Gris, que le plus impardonnable des crimes était de mordre un des dieux. Selon l'usage admis pour tous les chiens, il s'en allait fourrager à travers le campement afin de chercher sa nourriture. Un garçon découpait à l'aide d'une hache de la viande d'élan congelée et les éclats envolaient dans la neige. Gros-Blanc, s'étant arrêté, commença à se repaître de ses débris. Mais ayant remarqué que le garçon avait déposé sa hache et s'était saisi d'un gros gourdin, il sauta en arrière juste à temps pour éviter le coup qui s'abattait sur lui. Le garçon le poursuivit, et comme il était étranger dans le camp, le Louveteau, ne sachant où se réfugier, se trouva bientôt acculé entre deux tentes contre un haut talus de terre. Il n'y avait pour lui aucune issue que le passage entre deux tentes gardées par l'Indien. Celui-ci, le gourdin levé, s'avançait déjà prêt à frapper. Gros-Blanc était furieux. Il connaissait la loi de Maraude qui voulait que tous les déchets de viande appartinssent aux chiens qui les trouvaient. Il n'avait rien fait de mal, ni rompu la loi. Et cependant, ce garçon était là, prêt à le battre. À peine se rendait-il compte lui-même de ce qui arrivait. Ce fut un sursaut de rage. Le garçon ne le sut pas davantage, sinon qu'il se trouva culbuté dans la neige, avec sa main qui tenait le gourdin, largement déchirée par les dents du louveteau. En agissant ainsi, Gros-Blanc n'ignorait pas qu'il avait rompu à son tour la loi des dieux. Il avait enfoncé ses crocs dans la chair sacrée de l'un d'eux et n'avait rien à attendre qu'un terrible châtiment. Il s'enfuit près de Castor Gris et s'alla coucher derrière ses jambes dès qu'il vit arriver le garçon mordu qui réclamait vengeance accompagné de sa famille. Mais les plaignants durent s'en aller sans être satisfaits. Castor Gris, Mitsa et Cloucouche prirent la défense du louveteau. Gros-Blanc écoutait la bataille des mots et surveillait les gestes irrités des deux parties. Et il apprit ainsi non seulement que son acte était justifié, mais aussi qu'il y a Dieu et Dieu. Ici étaient ces dieux et là en étaient d'autres qui n'étaient point les mêmes. Des premiers, ils devaient tout accepter, et justice ou injustice, c'était tout comme. Mais des seconds, ils n'étaient pas forcés de subir ce qui était injuste. C'était son droit, en ce cas, de leur répondre avec ses dents. Cela aussi était une loi des dieux. Le jour n'était pas terminé que Croblant en apprit davantage sur cette loi. Mitsa était seul dans la forêt en train de ramasser du bois pour le feu lorsqu'il se rencontra avec le garçon qui avait été mordu. Des mots grossiers furent échangés. Bientôt, d'autres garçons étant accourus, ils attaquèrent tous Mitsa. Le combat fut dur pour lui et il recevait des coups de droite et de gauche. D'abord, Croblant regarda en simple spectateur ce qui se passait. C'était une affaire de Dieu qui ne le regardait pas. Puis il comprit que Mitsa était un de ces dieux particuliers que l'on maltraitait. Par une impulsion immédiate, il bondit au milieu des combattants. 5 minutes après, le paysage était couvert de garçons en fuite et le sang qui coulait des blessures de plusieurs d'entre eux, rougissant la neige, témoignait que les dents du louveteau n'avaient pas été inactives. Lorsque, de retour à la tente, Mitsa raconta l'aventure, Castor Gris ordonna que de la viande fût donnée à Croblant. Beaucoup de viande. Gorgé, le louveteau s'endormait devant le feu et sut que la loi qu'il avait apprise quelques heures auparavant avait été vérifiée. D'autres conséquences résultaient de cette loi. De la protection du corps de ces dieux à celle de leurs biens, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi par le louveteau. Il devait défendre ce qui appartenait à ses dieux, dut-il même mordre les autres dieux, quoique ce fût là un acte sacrilège en soi. Les dieux sont tout-puissants, et un chien est incapable de lutter contre eux. Croblant, cependant, avait appris à leur tenir tête, à les combattre fièrement et sans crainte. Le devoir s'élevait au-dessus de la peur. Il y avait, d'autre part, des dieux poltrons, et tels étaient ceux qui venaient voler le bois de son maître. Le louveteau connut quel temps s'écoulait entre son appel d'alarme et l'arrivée à l'aide de Castelgris. Il comprit aussi que c'était la peur de l'Indien, plus encore que la sienne, qui faisait sauver le voleur. Quant à lui, il fonçait droit sur l'intrus et entrait ses dents où il pouvait. Son goût pour la solitude et son éloignement instinctif des autres chiens le désignaient d'eux-mêmes pour ce rôle de gardien des buins de Castor Gris qu'il entraîna et le dressa à cet emploi. Il n'en devint que plus revêche et plus sauvage encore. Ainsi se scellaient, se précisaient les termes du contrat signé par Croblant avec l'homme. Contre la possession d'un dieu de chair et de sang, il échangeait sa propre liberté. Nourriture et feu, protection et société étaient au premier rang des dons qu'il recevait du dieu. En retour, il gardait les biens du dieu, défendait sa personne, travaillait pour lui et lui obéissait. Quiche même était devenu un souvenir du passé. Le louveteau, pour se livrer à l'homme, avait abandonné à tout jamais la liberté, le wild et sa race. S'il lui arrivait de rencontrer Quiche, les termes du contrat lui interdiraient de la suivre. C'était un devoir qu'accomplissait Croblant vers le dieu qui était le sien. Mais dans ce devoir n'entrait pas d'amour. L'amour était un sentiment qu'il continuait à ignorer.
Chapitre 14. La famine. Le printemps était proche lorsque Castor Gris termina son voyage. On était en avril et Croblant comptait 1 an d'âge quand il retrouva le campement de la tribu et fut délivré de ses harnais par Mitsa. Quoiqu'il ne fût pas encore au terme de sa croissance, le louveteau était, exception faite de Lip-Lip, le plus formé parmi les jeunes chiens du campement. De son père loup et de Quiche, il avait hérité force et stature, et déjà son corps dépassait en longueur celui des chiens adultes. Mais il n'était pas encore large en proportion, et ses formes demeuraient minces et élancées, avec une vigueur plus nerveuse que massive. La fourrure de Cro-Blanc était du vrai gris des loups, et il était en apparence un vrai loup lui-même. Le quart de sang de chien qui lui venait de quiche, s'il avait sa part marquée dans sa mentalité, n'avait pas sensiblement influencé son aspect physique. Le louveteau, vagabondant à travers le campement, s'amusa fort à retrouver les divers dieux qu'il avait connus avant son long voyage. Puis il y avait les chiens, les petits qui avaient grandi comme lui-même, et les grands qui ne lui paraissaient plus maintenant aussi grands ni aussi formidables que sa mémoire les représentait. Aussi n'en eut-il pas peur, comme autrefois, se promenant au milieu d'eux avec un air dégagé, tout nouveau et qui lui parut délicieux. Parmi les vieux chiens se trouvait un certain Basilque, au poil grisonnant, qui jadis n'avait qu'à découvrir ses dents pour le faire fuir au loin, rampant et couchant. Cro-Blanc, dans ses jeunes jours, avait connu par lui combien il existait peu. Par lui maintenant, il se rendait compte du changement survenu dans son développement et dans sa force, tandis que Basilique n'avait fait au contraire que s'affaiblir avec l'âge. Le premier contact eut lieu entre eux à l'occasion du dépècement d'un élan fraîchement tué. Cro-Blanc avait obtenu pour sa part un sabot et un tibia où adhérait un morceau de viande. À l'écart derrière un buisson et loin de la bousculade des autres chiens, il dévorait tranquillement sa proie lorsque Basilique s'élança sur lui. Il riposta en bondissant à son tour sur l'intrus dont il lacéra la chair, puis se recula hors de sa portée. Basilique, stupéfait de la témérité du louveteau et de son attaque rapide, en demeura figé, regardant stupidement son adversaire, l'os rouge et saignant entre eux. Basilique, qui avait expérimenté déjà la valeur croissante des jeunes chiens autrefois rossés par lui, faisait appel à toute sa sagesse pour supporter ce qu'il ne pouvait empêcher. Au temps passé, il se serait immédiatement jeté sur Cro-Blanc dans la fureur d'un juste courroux. Mais, connaissant son impuissance, il se contenta de se hérisser fièrement et de regarder le louveteau avec mépris. Cro-Blanc, de son côté, ressentait encore quelque chose de l'ancienne terreur. Il se tassa sur lui-même et se fit petit tout en cherchant dans son esprit le moyen d'opérer une retraite qui ne fût pas trop ignominieuse. Mais Basilique jugea mal de la situation. Il lui parut suffisant d'avoir intimidé le louveteau de son regard méprisant. Cro-Blanc allait fuir et lui laisser la viande, et Basilique n'eut pas la patience d'attendre. Considérant sa victoire comme un fait acquis, il s'avança vers la viande. Comme il courbait la tête sans autre précaution pour la flairer, le louveteau se hérissa légèrement. Même alors, rien n'était perdu pour le vieux chien. S'il était resté résolument en place en relevant la tête et en faisant luire la menace de ses yeux, Cro-Blanc se serait piteusement retiré. Mais l'odeur de la chair fraîche montait à ses narines avec un tel attrait qu'il ne put résister au désir d'y goûter sans tarder. C'en était trop pour Cro-Blanc. Il venait pendant trop longtemps d'être le maître incontesté de ses compagnons de route pour se résoudre à demeurer insensible tandis qu'un autre chien dévorait la viande qui lui appartenait. Il frappa, selon sa coutume, sans avertir. Dès le premier coup de dent, Basilique avait l'oreille mise en ruban. Il n'était pas encore revenu de sa stupeur que d'autres calamités fondaient sur lui. Il était renversé les pattes en l'air, avait la gorge entamée, et tandis qu'il luttait pour se mettre debout, son épaule recevait deux fois les crocs du louveteau. Dans une inutile riposte, il fit claquer sur l'air vide une morsure irritée. L'instant d'après, il était atteint au museau et balayer loin de la viande. La situation se trouvait ainsi retournée. Croblanc, hérissé et menaçant, demeurait sur le tibia, tandis que Basique se tenait en arrière et se préparait à la retraite. Il n'osait plus risquer la bataille avec le louveteau, dont l'attaque rapide le bouleversait, et, plus amèrement, il connaissait l'affaiblissement de l'âge. Il fit un effort héroïque pour sauvegarder sa dignité. Avec calme, tournant le dos à Croblanc et au tibia, comme si l'un et l'autre eussent été les choses dont il n'avait souci, et tout à fait indignes de son attention, il s'éloigna d'un pas noble. Et tant qu'il ne fut pas hors de la vue du louveteau, il ne s'arrêta pas pour lécher ses blessures saignantes. Cette nouvelle victoire raffermit la confiance de Croblanc lui-même et accrut son orgueil. Ferme désormais sur son droit, il allait son chemin dans le camp sans céder le pas à aucun chien, ne craignant plus d'être maltraité, mais redouté de tous, toujours insociable, morose et solitaire, daignant à peine regarder à droite ou à gauche et accepté comme un égal par ses aînés abasourdis. Pas plus qu'il n'endurait un acte hostile, il n'admettait d'ouverture d'amitié. Il prétendait uniquement qu'on le laissât tranquille. Quelques autres rencontres achevèrent d'imposer sa manière de voir au récalcitrant. Vers la mi-été, Croblanc eut une épreuve. Un jour qu'il trottait seul, silencieux comme de coutume, examinant une nouvelle tente qui s'était élevée sur la lisière du camp pendant son absence, il tomba en plein sur Quiche. S'étant arrêté, il la regarda. Son souvenir d'elle était vague, mais non effacé. À son aspect, elle retroussa sa lèvre avec son ancien grondement de menace. Alors la mémoire revint plus claire au louveteau. Son enfance oubliée et toutes les réminiscences s'associant à ce grondement qui lui était familier se précipitèrent à l'esprit de Croblanc. Avant qu'il connût les dieux, Quiche avait été pour lui le pivot de l'univers, et le flot des anciens sentiments et de l'intimité passée surgit en lui. Il fit vers elle un bond joyeux. Elle le reçut avec ses gros aigus qui lui ouvrirent la joue jusqu'à l'os. Le louveteau ne comprit pas et se recula, tout démonté et fort intrigué. Quiche, cependant, n'était pas coupable. Une mère louve n'est pas créée pour se souvenir de ses louveteaux, de ceux d'un an, ni de ceux qui précèdent. Aussi ne reconnut-elle pas Croblanc. Ce n'était pour elle qu'une bête étrangère et un intrus. Ses nouveaux petits lui interdisaient de tolérer aucun animal à proximité. Un des petits louveteaux vint gambader autour de Croblanc. Ils étaient demi-frères, mais ils l'ignoraient tous deux. Croblanc flaira curieusement le petit, mais il fut aussitôt attaqué par Quiche qui lui déchira la face une seconde fois. Il recula encore plus loin. Les vieux souvenirs et toutes les idées qui s'y associaient moururent à nouveau et retombèrent au tombeau d'où ils avaient ressuscité. Croblanc regarda Quiche qui était en train de lécher son petit et qui s'arrêtait de temps à autre pour gronder et menacer. Elle était devenue sans intérêt pour lui. Il avait appris à vivre loin d'elle, et il l'oublia tout à fait. Dans sa pensée, il n'y eut plus place pour elle, exactement comme elle n'avait plus dans la sienne gardé place pour lui. Il restait là, immobile, tout étourdi, livrant une dernière bataille à ses souvenirs bouleversés, lorsque Quiche renouvela son attaque pour la troisième fois, bien décidé à l'expulser loin de son voisinage. Croblanc se laissa volontairement chasser. C'était une loi de sa race que les mâles ne doivent pas combattre contre les femelles, et Quiche en était une. Aucune déduction de la vie ni du monde ne lui avait enseigné cette loi. Il la connaissait immédiate et impérative par ce même instinct qui avait mis en lui la crainte de l'inconnu et celle de la mort. D'autres mois passèrent. Gros-Blanc devenait plus large de forme et plus massif, tandis que son caractère continuait à se développer selon la ligne tracée par son hérédité et par le milieu ambiant. L'hérédité, comme une argile, était susceptible de prendre des formes diverses selon le monde auquel elle était soumise. Le milieu la pétrissait et lui servait de modèle. Si Gros-Blanc n'était pas venu vers le feu des hommes, le Wilde lui moulait en un vrai loup. Mais ses dieux lui avaient créé un milieu différent et l'avaient moulé en un chien qui conservait quelque chose du loup, mais qui était tout de même un chien et non un loup. Son caractère avait été pareillement pétri selon la pression morale que sa nature avait subie. C'était une loi fatale à laquelle le louveteau n'avait pu échapper. Et tandis qu'il devenait toujours plus insociable avec les autres chiens, plus féroce envers eux, Castor Gris l'appréciait chaque jour davantage. Quelle que fût cependant sa force physique et morale, Gros-Blanc souffrait d'une faiblesse de caractère insurmontable. Il ne pouvait supporter de voir rire de lui. Le rire humain était à son idée une chose haïssable. Qu'il plût aux dieux de rire entre eux au sujet de n'importe quoi, peu lui souciait. Mais si le rire se tournait de son côté, s'il sentait qu'il en devenait l'objet, alors il entrait en une effroyable rage. Calme et digne en sa sombre gravité l'instant d'avant, il en était métamorphosé. On l'outrageait, pensait-il, et la folie frénétique qui s'emparait de lui durait des heures entières. Malheur au chien qui venait alors gambader à sa portée. Le louveteau connaissait trop bien la loi pour passer sa colère sur Castor Gris, car derrière Castor Gris, il y avait un fouet et un gourdin. Mais derrière les chiens, il n'y avait que l'espace vide où ils détalaient dès qu'apparaissait Gros-Blanc rendu fou par les rires. Gros-Blanc était dans sa troisième année lorsqu'il y eut une grande famine pour les Indiens du Mackenzie. Le poisson manqua pendant l'été. Durant l'hiver, les caribous oublièrent de faire leur habituelle migration. Les élans étaient rares, les lièvres avaient presque disparu, et toutes les bêtes de proie, tous les animaux qui vivent de la chasse, périssaient. Manquant de leur nourriture coutumière, tenaillés par la faim, ils se jetèrent les uns sur les autres et s'entre-dévorèrent. Le plus fort survivait seul. Les dieux de Gros-Blanc étaient sans trêve en chasse de quelque animal. Les plus vieux et les plus faibles d'entre eux moururent d'inanition. Ce n'était dans le camp que gémissements et affres de souffrance. Femmes et enfants tombaient de faim, le peu de nourriture qui restait s'en allant dans le ventre des chasseurs aux yeux creux qui battaient la forêt dans leur vaine poursuite de la viande. Tandis que les dieux en étaient réduits à manger le cuir de leurs mocassins et de leurs moufles, les chiens dévoraient les harnais dont on les avait déchargés et jusqu'à la lanière des fouets. Puis les chiens se mangèrent les uns les autres, et les dieux à leur tour mangèrent les chiens. Les plus débiles et les moins beaux étaient mangés, les premiers. Ceux qui survivaient regardaient et comprenaient. Quelques-uns parmi les plus hardis, croyant faire preuve de sagesse, abandonnèrent les feux des dieux et s'enfuirent dans les forêts. Ils y succombèrent de faim ou furent dévorés par les loups. Dans cette misère, Gros-Blanc se coula lui aussi parmi les bois. L'entraînement de son enfance le rendait plus apte que les autres chiens à la vie sauvage et le guidait dans ses actions. Il s'adonna plus particulièrement à la chasse des menues bestioles et reprit ses affûts à l'écureuil, dont il guettait les mouvements sur les arbres, attendant avec une patience aussi infinie que sa faim, que le prudent petit animal s'aventura sur le sol. Il s'élançait alors de sa cachette comme un gris projectile, incroyablement rapide, et ne manquait jamais son but. Si vif que fut l'envol de l'écureuil, il était trop lent encore. Mais si réussi que fut cette chasse, il n'y avait pas assez d'écureuils pour engraisser ou simplement nourrir Gros-Blanc. Il chassa plus petit, ne dédaigna pas de déterrer les souris de bois et n'hésita pas à livrer bataille à une belette aussi affamée que lui et bien plus féroce. Au moment où la famine atteignait son point culminant, il s'en revint vers les feux des dieux. Il s'arrêta à quelque distance des tentes, épiant de la forêt ce qui se passait dans le camp, évitant d'être découvert et dépouillant les pièges des Indiens du gibier qu'il y trouvait capturé. Il spolia même un piège appartenant à Castor Gris et où un lièvre était pris, tandis que son ancien maître était aéré dans la forêt. Il se reposait souvent couché sur le sol, si grande était sa faiblesse et tellement le souffle lui manquait. Un jour, il rencontra un jeune loup maigre et demi-mort de besoin. S'il n'avait pas été affamé lui-même, Gros-Blanc aurait pu se joindre à lui et peut-être aller reprendre place dans la troupe sauvage de ses frères. Mais étant donné la situation présente, il courut sur le jeune loup, le tua et le mangea. La chance semblait le favoriser. Toujours, lorsque le besoin de nourriture se faisait le plus durement sentir, il trouvait quelque chose à tuer. Lorsqu'il se sentait surtout faible, il avait le bonheur de ne pas se croiser avec un adversaire plus fort que lui et qui l'eût infailliblement mis à mal. Une troupe de loups qui se précipita sur lui le trouva solidement repu d'un lynx qu'il avait dévoré 2 jours avant. Ce fut une chasse acharnée et sans quartier. Mais Gros-Blanc était plus en forme que ses agresseurs. Il finit par lasser leur poursuite et sauva sa vie. Mieux encore, revenant sur ses pas, il se jeta sur un des poursuivants avancés et s'en régala. Quittant ensuite cette région, il s'en vint pérégriner à travers la vallée où il était né. Il y dénicha l'ancienne tanière et y trouva Quiche. Elle avait fui, comme lui, les feux inhospitaliers des dieux et avait repris possession de son refuge pour mettre au jour une portée. Un seul des nouveaux-nés survivait lorsque Gros-Blanc fit son apparition, et cette jeune existence n'était pas destinée à résister encore longtemps en une telle famine. L'accueil de Quiche à son grand-fils ne fut pas plus affectueux que lors de leur dernière rencontre. Mais Gros-Blanc ne s'en inquiéta pas. Sa force dépassait maintenant celle de sa mère. Il tourna le dos avec philosophie et descendit entre-temps vers le torrent. Il obliqua vers la tanière de la mère Lynx, contre laquelle il avait, en compagnie de Quiche, combattu voilà bien longtemps. Il s'étendit dans la tanière abandonnée et y dormit tout un jour. Vers la fin de l'été, dans sa dernière période de la famine, il se rencontra avec Lip-Lip, qui avait aussi gagné les bois où il traînait une existence misérable. Ils trottaient, tous deux, en sens opposé, à la base d'une des falaises qui bordait le torrent. Inopinément, ils se trouvèrent nez à nez à un tournant du roc. S'étant arrêtés, ils se mirent aussitôt en garde et se jetèrent un méfiant coup d'œil. Gros-Blanc était en splendide condition. La chasse avait été bonne, et depuis 8 jours, il s'était repu à gueule que veux-tu. Son dernier meurtre n'était même pas encore digéré. Mais à l'aspect de Lip-Lip, ses poils se hérissèrent tout le long de son dos d'un mouvement automatique comme au temps des persécutions passées, et il gronda. Ce qui suivit fut l'affaire d'un instant. Lip-Lip essaya de fuir, Mais Cromblard, d'un coup d'épaule, le culbuta et le fit rouler sur le sol. Puis il plongea ses dents dans sa gorge. Tandis que son ennemi agonisait, il tourna en cercle autour de lui, pattes raides et observant. Après quoi, il reprit sa route et s'en alla entre-temps le long de la falaise. Peu après cet événement, il s'avança sur la lisière de la forêt dans la direction d'une étroite clairière qui s'inclinait vers le Mackenzie et où il était déjà venu. Mais maintenant, un campement l'occupait. Il demeura caché parmi les arbres afin d'étudier la situation. Spectacle, son et odeur lui étaient familiers. C'était l'ancien campement qui s'était transporté à cet endroit. Spectacle, son et odeur différaient cependant du dernier souvenir qu'il en avait gardé. Il n'y avait plus de plaintes ni de gémissements. Des bruits joyeux saluaient ses oreilles, et quand il entendit la voix irritée d'une femme, il sut que derrière cette colère était un estomac plein. Une odeur de poisson frit flottait dans l'air. La nourriture ne manquait pas, et la famine s'en était allée. Alors il sortit hardiment de la forêt, et, trottant à travers le village, vint droit à la tente de Castor Gris. Castor Gris n'était pas là, mais Cloucouche le reçut avec des cris de joie. Elle lui donna tout un poisson fraîchement pris, et il se coucha par terre en attendant le retour de Castor Gris. Chapitre 15. L'ennemi de sa race. S'il y avait eu dans la nature de Cromblanc quelque aptitude, fut-elle le dernier fruit d'un atavisme très ancien, de fraterniser avec les représentants de sa race, plus rien de cette aptitude n'aurait pu subsister du jour où il fut choisi pour être à son tour le chef de file de l'attelage du traîneau. Car dès lors, les autres chiens l'avaient haï. Ils l'avaient haï pour le supplément de viande que lui donnait Mitsab. Haï pour toutes les faveurs, imaginaires ou réelles, qu'il recevait de l'Indien. Haï parce qu'il courait toujours en avant d'eux, balançant devant leurs yeux le panache de sa queue, faisant fuir éternellement, hors de leur portée, son train de derrière en une vision constante qui les rendait fous. Par un contre-coup fatal, Cromblanc avait rendu haine pour haine. Le rôle qui lui avait été dévolu n'était rien moins qu'agréable. Être contraint de courir avec, à ses trousses, la troupe hurlante dont chaque chien avait été depuis 3 ans étrié et asservi par lui, était quelque chose dont tout son être se révoltait. Il le fallait pourtant, sous peine de la vie, et cette volonté de vivre était plus impérieuse encore. À l'instant où Mitsa donnait le signal du départ, tout l'attelage, d'un même mouvement, s'élançait en avant sur Cromblanc en poussant des cris ardents et furieux. Pour lui, pas de résistance possible. S'il se retournait sur ses poursuivants, Mitsa lui cinglait la face de la longue anière de son fouet. Nulle ressource que de décamper à toute volée. Sa queue et son train de derrière étaient impuissants à mettre à la raison la horde forcenée devant laquelle il fallait qu'il parût fuir. Chaque bond qu'il faisait en avant était une violence à son orgueil, et il bondissait tout le jour. C'était la volonté des dieux que céda à son orgueil, qu'il comprima les élans de sa nature, que son être révolté renonça à s'élancer sur les chiens qui le talonnaient. Et derrière la volonté des dieux, il y avait, pour lui donner force de loi, les 30 pieds de long du fouet mordant, emboyant au bout de caribou. Il ne pouvait que ronger son frein en une sourde révolte intérieure et donner carrière à sa haine. Nul être ne devint jamais autant que lui l'ennemi de sa race. Il ne demandait pas de quartier et n'en accordait aucun. différent de la plupart des chefs de file d'attelage, qui, lorsque le campement est établi et que les chiens sont dételés, viennent se mettre sous la protection des dieux, Gros-Blanc, dédaignant cette précaution, se promenait hardiment en toute liberté à travers le campement, infligeant chaque nuit à ses ennemis la rançon des affronts qu'il avait subis devant le jour. Avant qu'il fût promu chef, la troupe des chiens s'était habituée à se retirer de son chemin. Maintenant, il n'en était plus de même. Excité par la longue poursuite du jour, accoutumés à le voir fuir et le cerveau s'entraînant à l'idée de la maîtrise incontestée qu'ils exerçaient durant ce temps sur leur adversaire, les chiens ne pouvaient se décider à reculer devant lui et à lui livrer le passage. Dès qu'il apparaissait parmi eux, il y avait tumulte et bataille, grondements et morsures et balafres mutuelles. L'atmosphère que respirait Gros-Blanc était surchargée d'inimitiés haineuses et mauvaises. Lorsque Mitsa criait à l'attelage son commandement d'arrêt, Gros-Blanc obéissait aussitôt, et les autres chiens voulaient se jeter immédiatement sur lui. Mais le grand fouet de Mitsa était là, qui veillait, et les en empêchait. Aussi les chiens avaient-ils compris que si le traîneau s'arrêtait par ordre de Mitsa, il fallait laisser en paix Gros-Blanc. Si par contre Gros-Blanc s'arrêtait sans ordre, il était permis de s'élancer sur lui et de le détruire si on le pouvait. De son côté, Gros-Blanc ne tarda pas à se rendre compte de cela et il ne s'arrêta plus de lui-même. Mais les chiens ne purent jamais prendre l'habitude de le laisser tranquille au campement. Chaque soir, il s'élançait à l'attaque en hurlant, oublieux de la leçon de la nuit précédente, et la nouvelle leçon qu'il recevait était destinée à être aussi vite oubliée. La haine qu'il ressentait pour Gros-Blanc avait d'ailleurs des racines plus profondes dans la dissemblance qu'il sentait exister entre eux et lui. Cette seule cause aurait suffi à la faire naître. Comme lui, sans doute, ils étaient des loups domestiqués. Mais domestiqués depuis des générations, ils avaient perdu l'accoutumance du wild, dont ils n'avaient conservé qu'une notion, celle de son inconnu terrible et toujours menaçant. C'était le wild dont ils étaient demeurés plus proches, qu'ils haïssaient dans leurs compagnons. Celui-ci le personnifiait pour eux. Il en était le symbole. Et quand ils découvraient leurs dents en face de lui, ils se défendaient en leurs pensées contre les obscures puissances de destruction qui les environnaient dans l'ombre de la forêt, qui les épiaient sournoisement au-delà de la limite des feux du campement. La seule leçon que les chiens tirèrent de ces combats fut que le jeune loup était trop redoutable pour être affronté seul à seul. Alors ils ne l'attaquaient que formés en masse, sans quoi il les eut tous tués, l'un après l'autre, en une seule nuit. Grâce à cette tactique, ils lui échappèrent. Il pouvait bien culbuter un chien, les pattes en l'air, mais la troupe entière était aussitôt sur lui avant qu'il ait eu le temps de donner à la gorge le coup mortel. Au premier signe du conflit, les chiens, même occupés à se quereller entre eux, formaient bloc et lui faisaient face. Pas davantage ils ne pouvaient, malgré leurs efforts, réussir à oxyre Gros-Blanc. Il était à la fois trop vif pour eux, trop formidable et trop prudent. Il évitait les endroits resserrés et prenait le large dès qu'ils essayaient de l'encercler. Quant à le culbuter, pas un chien n'était capable de réussir l'opération. Ses pattes s'accrochaient au sol avec la même ténacité qu'il se cramponnait lui-même à la vie. Car se maintenir debout était vivre, et se laisser renverser était la mort. Nul mieux que lui ne le savait. Ainsi, Gros-Blanc se dressait contre ses propres frères amollis par les feux de l'homme, affaiblis par l'ombre protectrice que les dieux avaient étendue sur eux et les dominaient. Il avait déclaré vendetta à tous les chiens. Et si féroce était cette vendetta que Castor Gris, tout sauvage et barbare qu'il était lui-même, ne pouvait s'empêcher d'en être émerveillé. Jamais, il le jurait, il n'avait eu sur terre le pareil de cet animal. Gros-Blanc approchait de ses 5 ans lorsque Castor Gris l'emmena en un autre grand voyage. Parmi les villages riverains du Mackenzie, d'où ils passèrent dans les montagnes rocheuses entre le Porcupine et le Yukon, longtemps on se souvint du carnage de chiens auquel se livra Gros-Blanc. Sur toute sa race, il s'adonna librement à la vengeance. Il y avait là des tas de chiens naïfs et sans défiance, n'ayant pas appris à déjouer ses coups rapides, à se garder de son attaque brusquée que ne procédait aucun avertissement. Tandis qu'ils perdaient leur temps en préliminaires de bataille et hérissaient leurs poils, il était déjà sur eux, sans en avoir, tel un éclair qui porte la mort à l'instant même où on le voit, et ils les massacraient avant qu'ils fussent seulement revenus de leur surprise. Il était en vérité devenu un admirable champion. Il savait économiser ses forces et jamais ne les outrepassait. Jamais non plus il ne se perdait en une longue bataille. Si le coup rapide qu'il portait était manqué, aussi rapidement il se retirait en arrière. Comme tous les loups, il n'aimait pas les corps à corps, ni les contacts prolongés. Le Wall lui avait appris que le contact, c'était le piège, le danger ignoré. L'important était de se tenir libre de toute étreinte, de bondir à son gré sur l'adversaire, de rester juge à distance de la marche de la bataille. Ce système lui assurait d'ordinaire une victoire facile sur les chiens qui se rencontraient avec lui pour la première fois. Sans doute y avait-il des exceptions. Il arrivait que plusieurs chiens réussissaient à sauter sur lui et à le rosser avant qu'il puisse dégager. D'autres fois, un chien isolé lui administrait une profonde morsure. Mais ce n'était là que des accidents peu fréquents, et en règle générale, il se retirait indemne de toutes ses rencontres. Une autre de ses qualités était de posséder une notion rigoureusement exacte du temps et de la distance. C'était inconscient et automatique. Sans réflexion ni calcul de sa part, l'organe visuel dont il était doué portait juste, au-delà de la moyenne qui se rencontre chez les autres bêtes de sa race. Son cerveau recevait parallèlement l'impression des nerfs optiques et par un mécanisme bien réglé, qu'il devait à la nature, en tirait aussitôt parti. L'action suivait de près, bien réglée dans l'espace et dans le temps, et une fraction infinitésimale de seconde, nettement perçue et utilisée, suffisait souvent à assurer la victoire à Gros-Blanc. La caravane arriva durant l'été à Fort Yukon. Castor Gris, après avoir profité du gel de l'hiver pour traverser les rivières qui coulent entre le Mackenzie et le Yukon, avait occupé le printemps à la chasse dans les montagnes. Lorsque la débâcle des glaces fut venue, il s'était construit un canot et avait descendu le courant du Porcupine jusqu'au point de jonction de ce fleuve avec le Yukon, sous le cercle arctique exactement. C'est à cet endroit que se trouve le vieux fort qui appartient à l'Hudson Bay Company. Les Indiens y étaient nombreux, les provisions abondantes et l'animation sans précédent. C'était l'été de 1898. Des milliers de chercheurs d'or étaient venus eux aussi jusqu'au Yukon, se dirigeant vers Dawson et le Klondike. Ils étaient encore à des centaines de miles du but de leur voyage, et beaucoup d'entre eux, cependant, étaient en route depuis un an. Le moindre parcours effectué par eux était de 5 000 miles, Beaucoup venaient de l'autre hémisphère. Là, Castor Gris s'arrêta. Une rumeur était arrivée à ses oreilles de la course à l'or, et il apportait avec lui plusieurs ballots de fourrure, d'autres de moufles, d'autres de mocassins. L'espoir de large profil avait incité à s'aventurer en cette longue course. Mais ce qu'il avait espéré ne fut rien en regard de la réalité. Ses rêves les plus extravagants n'avaient pas escompté un gain de plus de 100%. Mais c'était 1000% qui s'offrait à lui. En bon indien, quand il vit cela, il installa sans hâte et soigneusement son commerce, décidé à prendre l'été entier et l'hiver suivant au besoin, pour tirer tout le parti possible et le plus avantageux de sa marchandise. Et ce fut à Fort Yukon que Cro-Blanc vit les premiers hommes blancs. Comparés aux Indiens qu'il avait connus, ils lui semblèrent des êtres d'une autre espèce, une race de dieux supérieure. Son impression fut qu'ils possédaient un plus grand pouvoir, et c'est dans le pouvoir que réside la divinité des dieux. Ce fut un sentiment qu'il éprouva plus qu'il ne raisonna cette impression. De même que, dans son enfance, l'ampleur des tentes élevées par les premiers hommes qu'il avait rencontrés avait frappé son esprit comme une manifestation de puissance, de même encore il était frappé maintenant par les maisons qu'il voyait et qui étaient construites, comme le fort lui-même, de rondins massifs. Voilà qui était de la puissance. Le pouvoir des dieux blancs était supérieur à celui des dieux qu'il avait adoré jusque-là, supérieur même à celui de Castor Gris, de ceux-ci le plus puissant et qui ne semblait plus parmi les dieux à peau blanche qu'un petit dieu enfant. D'abord, il s'était montré soupçonneux envers eux. Pendant les premières heures qui suivirent son arrivée, il les examinait avec grand soin, tout en craignant d'être remarqué lui-même, et il se tenait à une prudente distance. Puis, voyant que près d'eux aucun mal n'advenait au chien, il s'approcha davantage. De leur côté, il l'examinait avec une extrême curiosité. Son étrange apparence attirait leur attention, et ils se le montraient du doigt les uns aux autres. Ses doigts tendus ne disaient rien de beau à Cro-Blanc, et quand les dieux blancs tentaient de s'approcher de lui, il montrait les dents et se reculait. Pas un ne réussit à poser sa main sur lui, et si quelqu'un avait insisté, ce n'eût pas été sans dommage. Cro-Blanc connut bientôt qu'un petit nombre de dieux blancs, pas plus d'une douzaine, étaient fixés dans cet endroit. Tous les deux ou trois jours, un grand vapeur, qui était une autre et colossale manifestation de puissance, accostait au rivage et demeurait quelques heures. D'autres hommes blancs descendaient à terre, puis se rembarquaient. Le nombre de ceux-là semblait être infini. En un seul jour, Cro-Blanc en vit plus qu'il en avait vu d'Indiens dans toute sa vie. Et les jours qui suivirent, les hommes blancs continuaient à arriver par le fleuve, à s'arrêter durant quelques instants, puis à repartir sur l'eau et à disparaître. Mais si les dieux blancs paraissaient comme tout-puissants, leurs chiens ne comptaient pas pour beaucoup. Ceci, Cro-Blanc le découvrit rapidement en se mêlant à ceux de ses chiens qui venaient à terre avec leur maître. Ils étaient de formes diverses et de grandeurs différentes. Les uns avaient les pattes courtes, trop courtes, d'autres les avaient longues, trop longues. Ils ne possédaient pas une fourrure semblable à la sienne, mais des poils très fins. Chez quelques-uns même, les poils étaient tellement ras qu'on eût dit qu'ils n'en avaient point. Et pas un d'entre eux ne savait combattre. Étant donné son hostilité pour tous les représentants de sa race, il était fatal que Cro-Blanc entrât en lutte avec les nouveaux venus. Il n'y manqua pas et conçut immédiatement pour eux un profond mépris. Ils étaient de leur nature ingénus et inoffensifs. En cas de combat, ils menaient grand bruit et s'agitaient autour de leur adversaire, demandant à leur force une victoire que donnent l'adresse et la ruse. En aboyant, ils s'élançaient sur Gros-Blanc, qui sautait de côté, et qui, tandis qu'ils en étaient encore à se retourner, les happait à l'épaule, les retournait sur le dos et leur portait son cou à la gorge. Cela fait, Gros-Blanc se retirait à l'écart, livrant sa victime aux chiens indiens qui se chargeaient de l'achever. Car c'était un sage. Il savait depuis longtemps que les dieux s'irritent lorsqu'on tue leurs chiens, et les dieux blancs ne faisaient pas exception à cette règle. Il se contentait donc de préparer la besogne, puis, à l'abri lui-même, il regardait paisiblement pierres, bâtons, haches et toutes sortes d'armes contondantes s'abattre sur ses compagnons. Gros-Blanc était un grand sage. Parfois, la vengeance des dieux outragés ne laissait pas d'être terrible. L'un d'eux, ayant vu son chien, cette terre, mis en pièces sous ses yeux, prit un revolver. Il fit feu coup sur coup, 6 fois de suite, et 6 des agresseurs restèrent sur place, morts ou à demi. L'autre manifestation de puissance qui se grava profondément dans le cerveau de Gros-Blanc. Le reste peut lui apporter ses fâcheuses aventures, puisqu'il était toujours assez habile pour s'en tirer indemne. Tout d'abord, le meurtre des chiens des hommes blancs avait été pour lui un simple divertissement. Il devint bientôt son unique occupation. C'était la seule manière d'utiliser son temps, tandis que Castor Gris s'adonnait à son commerce et faisait fortune. Avec la troupe des chiens indiens, il attendait l'arrivée des vapeurs et dès que l'un d'eux avait accosté, le jeu commençait. Ses compagnons avaient à leur tour appris à être sages. Aussitôt qu'elles voyaient les hommes blancs revenus de leur première surprise, siffler leurs chiens pour les rappeler à l'ordre et se préparer à foncer sur elles, la bande s'éparpillait à toute vitesse, puis le jeu cessait pour reprendre au prochain bateau. Toujours Gros-Blanc était chargé d'allumer la querelle avec les chiens étrangers. Il réussissait facilement, car pour eux, plus encore que pour ses compagnons, il était le wild farouche, abandonné et trahi par eux, et qu'ils craignaient obscurément de voir les reprendre. Venu du doux monde du sud vers les rives du Yukon, sur la sombre et redoutable terre du nord, il ne pouvait résister longtemps à l'inconsciente impulsion qui les poussait à s'élancer sur Gros-Blanc. Si amollis qu'ils fussent par l'accoutumance des villes, et si oublieux du passé de leurs ancêtres, si lointaine que fût en eux la notion du wild, ils la sentaient soudain tressaillir au fond de leur être dès qu'ils se trouvaient en présence de la créature hybride qu'était Gros-Blanc. Devant le loup qui était en lui et qui leur apparaissait tout à coup dans la claire lumière du jour, ils se souvenaient de l'ancien ennemi. Il était pour eux une proie légitime, comme eux-mêmes pour lui en étaient une.